Voilà, donc nous allons prendre la suite. Nous sommes au Daf Nun Amud Alef, en haut de la page. C'est une histoire bien connue au sujet de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva et Katshatle et Barthé des Kalba Savoua. Kalba Savoua, c'était un personnage très renommé à l'époque. Il était un des plus grands fortunés de l'époque. Et sa fille a été mitkadeshet à Rabbi Akiva. Qui était Rabbi Akiva à cette époque? C'était quelqu'un qui était très pauvre, comme on va le ressentir dans l'histoire, qui n'était pas encore un érudit, même bien au contraire. Et il venait pas d'une famille particulièrement noble. Je crois que même il avait des ascendances de Guérim. Et voilà, donc tout ce qu'il fallait pour déplaire à Kalba Savoua, le beau-père. Shama Kalba Savoua, il a entendu ça, Kalba Savoua, Adra Hana'a Mikol Nechase. Il a rendu à Sour sa fille de profiter de la moindre chose de ses biens. Ça veut dire qu'elle ne pourra jamais rien profiter tant qu'elle est mariée à cet homme. Azla Veitnesivale Besitva. Elle est quand même allée, ça ne l'a pas intimidée, elle y tenait, et elle est allée faire les Nisouin à la période de l'automne, avec Anu Beitivna. Alors, ils n'avaient rien d'autre pour dormir, c'était de la paille. Avec Aman Kitle Tivna Minmazia. D'après une lecture, ça donne ça. Qu'il lui retirait la paille des cheveux. En signe peut-être de délicatesse, il lui retirait la paille des cheveux, lui à elle. D'après une autre explication, c'est elle à lui, aussi par attention et délicatesse. Parce que quand on dort dans la paille, ben on a les cheveux qui en prennent. Amarla, Iavaili Raminala, Iavaili, il a dit Rabbi Akiva à sa kala, si j'avais les moyens, Ramin alir Yerushalayim bedava. Je t'aurais placé sur la tête cet ornement emblématique de l'époque qu'on appelle une Yerushalayim Shelza. C'était comme un diadème ou une couronne en or sur laquelle il y avait une représentation du paysage de Yerushalayim. Alors c'était d'une extrême richesse et lui il était extrêmement pauvre, mais il lui a formulé ce vœu que si seulement il pouvait. Comme pour dire qu'elle méritait bien cet honneur et cette attention de sa part, mais qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais la Gemara dans Maseret Shabbat dit qu'un jour, oui, il a accompli ce vœu. Ce vœu, ça veut dire ce souhait. Et quand il a eu les moyens. Alors les Mefarshim disent que même si Chachamim ont fait une xéra d'interdire Atarot Kalot, ce genre d'ornement, que c'était surtout dédié pour une kala, ça a été interdit suite à la destruction du temple pour un peu limiter la simcha. Néanmoins, ce décret, c'est que pour Khatan Vekala et pas pour une personne qui n'est pas à l'occasion du mariage. C'est au-delà de l'étape du mariage, c'est pas interdit. Ata Eliyahu Idame Leon Kenasha. Eliyahu Hanavi, il est venu, leur est apparu comme un homme, sous forme d'un homme. Vekakari Abava, il appelait à la porte. Amarleu, Havuli Purta de Tivna, donnez-moi s'il vous plaît un peu de paille. De Yaldat Iteti, Veletlimid Amle Aguna. Ma femme a eu un bébé, et je n'ai rien du tout pour protéger l'enfant. Ça veut dire, voilà, au moins que j'ai un peu de paille pour la literie. Amala Rabbi Akiva l'intete. C'est alors que Rabbi Akiva dit à Sakala, Chazé Gavra, regarde un homme, de afilu tivna lo itle, que même de la paille il n'a pas. Alors les Mefarshim disent que Eliyahu HaNavi est venu pour les consoler. Et comme Rabbi Akiva a su faire ressentir à sa femme qui s'appelait Rachel, la fille de Kalba Savoua, que voilà, il y a des gens encore plus pauvres que nous, donc on peut se réjouir. Parce que elle, qui était extrêmement, extrêmement riche, et elle vient maintenant dans une situation plus que précaire, alors comme pour la consoler, il lui a fait part que voilà, regarde. Et c'est pour ça qu'Eliyahu HaNavi est venu, justement. Alors, Rabbi Akiva lui a partagé ce sentiment qui était rassurant. Amrale, Zil avait Berav. Elle lui a dit, va être chez le à la maison du Rav, c'est-à-dire à la yeshiva. Moi, je serais comme si elle voulait l'encourager à aller étudier à la yeshiva. Mais ça veut dire quitter sa femme, parce qu'à l'époque, on partait à la yeshiva, même marié, on se retranchait, on partait, on voyageait, on restait là-bas pour des années des fois. Et c'est ce qu'elle l'encourage à faire. Alors, effectivement, Azal Tarte Sarechenin, il est allé pour 12 ans. Kamé de Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, chez les grands maîtres de l'époque, Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, il est possible qu'on puisse comprendre dans ce récit que quand il a remarqué que on lui parle de bijoux, et elle dit, moi je veux que tu deviennes un Talmid Chacham, c'est ça qui compte pour moi, plus que tout l'or du monde, alors c'est ça la mala d'une femme de Talmid Chacham, c'est que la Torah vaut plus que tout l'or du monde. C'est ce qu'elle a révélé, c'est pourquoi elle s'était mariée avec lui, elle savait qu'il avait ce potentiel, elle l'a envoyé, elle a voulu l'encourager à ça, elle a montré qu'elle était prête à non pas sacrifier pour la Torah, mais au contraire de sentir ce privilège de s'enrichir en Torah. Alors, il est allé. Les Mishlam Tarte Sareshnin, au terme de 12 ans, Ka'ata Lebeite, il revenait à la maison, au foyer. Shama Minachore Beite, il entend par derrière la maison des Kamarla, Chad Racha Litvitu, qu'un rachat de la... Un rachat s'adresse à sa femme en lui disant « Shapir avid la chavour, il a bien fait ton père de te bannir et de t'interdire par un vœu. Chada de l'odamilir, d'abord parce que ce mari ne te convient pas, il n'est pas de ton rang, il n'est pas de la même ni bourgeoisie, ni noblesse, ni rien. Veod, shavka harmelut chayut, kulun shenin, il t'a laissé comme une veuve du vivant d'un mari. Almenut, chayut, ça veut dire que réellement le mari est vivant, mais elle est comme veuve. Il te laisse comme veuve toutes ces années. Et donc, il a parlé avec, voilà, sur ce ton-là, à l'encontre de Rabbi Akiva. Amrale, et tout ça, Rabbi Akiva, il entend par derrière la maison, il entend comment elle répond. Itzaït le dili, elle a répondu, et si il m'écoutait, et bien qui reste à la yeshiva 12 années autres, 12 années supplémentaires. Alors Amar il s'est dit, Oil veyavat li reshuta idar le achorai. Comme elle me donne la permission et que c'est sa volonté, je fais marche arrière. Donc il n'est pas rentré, il est reparti sur le champ pour continuer. Comme ça, des mefarshim, je crois que c'est Rav Shmulevitz qui disait que pourquoi il n'est pas venu au moins saluer, passer un petit moment, non, rien du tout, pour pas marquer une coupure, parce que 12 ans et 12 ans, c'est pas la même chose que 24 ans d'une traite. Hadar Azal, Hava, Tarte Sareshene, Acharaniata. Donc il est retourné pour en rester encore 12 ans. Atab et Esrin Verba, Alfei, Zuged, Talmide. Au retour, après les 24 ans, il rapplique cette fois-ci entouré de 24 000 Talmidim. Il y a le mot Zuged qui, dans d'autres références, là où le Talmud amène ce récit, donc Maseret Ktuvot, il n'y a pas le mot Zuged. Zuged, c'est-à-dire des paires, des couplets, deux par deux qui étudient ensemble. Ça voulait dire donc 48 000. Non. Il n'y aurait que 24 000, pas Zugot. Il n'y aurait pas le mot Zugay. Donc, il rapplique entouré de 24 000 disciples. Nafu kule alma leapé. Et quand il arrive, tout le monde sort à sa rencontre. Veafi kamat le mipak leapé. Et elle aussi s'est levée pour aller à la rencontre. On a entendu qu'il y avait un grand, grand géant qui allait arriver, entouré de disciples. Et alors tout le monde allait à la rencontre pour être mekabel, le chacham, pour accueillir le chacham, faire honneur, elle aussi. Certains disent qu'elle ne savait pas que c'était son mari qui revenait, d'autres disent oui, elle savait. Amarla Aourishi, ce fameux rachat. Un rachat lui dit, il va aller, peut-être c'est le même qu'avant, faut voir. Veat lecha, et toi où tu vas te mettre? Ça veut dire, comment tu oses venir? Voilà que tu n'as pas de quoi réserver l'accueil qui mérite. Il y a une personnalité qui arrive, il faut s'habiller dignement. Et toi, t'es pauvre, t'as pas de quoi t'habiller dignement. Qu'est-ce que tu fais là, en d'autres termes? Comment tu oses venir? Amrale lui a répondu, Yodéa tzadik nefesh behemto. Le tzadik, il connaît très bien nefesh behemto. Il sait se mettre à la place de sa behima, il sait ressentir ce qu'elle ressent et prendre et avoir de la considération. Et donc, certains disent que elle savait que c'était son mari qui y revenait et qu'elle savait qu'il aurait de la considération. C'est pas parce qu'elle est habillée comme une pauvre qu'il manquera de considération, il comprendra. Et donc, c'est une explication. Alors, Nafu Kule Alma, pardon, donc Atat, il est Trazou Yele. Elle est venue pour se présenter à lui. Kamatrana Rabanan et les Rabanan refoulés. Qu'est-ce qu'elle a à faire par là, une femme? Amar Lehon, il leur a dit, Nihula, Sheli Veshelachem, Shelahu. Laissez-la, parce que ma Torah est la vôtre, c'est son mérite à elle. C'est elle qui m'a encouragé à aller apprendre moi-même, et donc ma Torah est la vôtre, lui revient. Tout le mérite lui revient. Shama Kalva Savua. Et donc ce Kavoda Torah qui lui est restitué lui vaut plus, bien sûr, que tout l'or du monde. Shama Kalva Savua. C'est comme ça que Kalba Savua, le beau-père, a appris la nouvelle. Ata Veitchil, il est venu faire chez la Tracham al Nidrei, sur le Neder en lui-même. Qui c'est qui a fait la Tarat Nedarim? On précise dans les poskim, il faut voir de plus près. Mais en tout cas, il est venu faire chez la Tracham pour avoir la Tarat Nedarim sur ce fameux vœu par lequel il avait banni sa fille de tous ses biens. Veishterai, il a obtenu la Tara, c'est ça Veishterai. Veishtari. Et du coup, sa fille ou Rabbi Akiva sont devenus mutarim de profiter. C'était plus en vigueur. Et la Gemara nous raconte Minshit mile yotar Rabbi Akiva. Par six choses, Rabbi Akiva est devenu riche. Et la plupart de ces six choses, ce sont des miracles. La plupart. Rabbi Akiva est devenu riche. Pourquoi la Gemara cherche à nous signifier l'origine de cette richesse? Alors, le Maharsha dit, comme on a vu pour Moshe Rabbeinu, que la Gemara s'était appliquée à nous dire quelle est l'origine de cette richesse, parce que, pour nous détromper, que Moshe Rabbeinu ne croit pas qu'il s'enrichit par le fait d'enseigner la Torah, et bien la même chose pour Rabbi Akiva, ne croit pas qu'il s'enrichit par le fait d'enseigner à 24 000 élèves. Ça se pouvait que, oui, peut-être, 24 000 élèves, si ils savent valoriser sa chokhma, peut-être qu'ils auraient payé un prix d'or pour être instruits par Rabbi Akiva. Eh bien non, il n'en est rien. Ce n'est pas de cette origine que vient la richesse. Mais il y avait six phénomènes particuliers par lesquels il s'enrichit Rabbi Akiva. Alors le premier, Min Kalba Savua. Le plus normal, c'est le beau-père. Comme on a dit, c'était une des plus grandes fortunes de l'époque. Ok, jusque-là, il y avait un éder, il ne pouvait rien donner à sa fille, à son gendre. Mais maintenant, oui. Et d'ailleurs, c'est écrit ailleurs, je crois, faut revoir là-bas dans le Kibbutz, que après la Tarat Nedarim, il a offert la moitié de sa fortune. Donc Rabbi Akiva s'enrichit du jour au lendemain. C'est intéressant, le Maharsha, il nous fait allusion qu'il y a quelques nuances dans le récit qui est repris ici et dans Maseret Ketubot. Et alors, il y a allusion dans le Maharsham, ils ont beaucoup développé ça dans la Gemara bleue, étape par étape. Sur chaque nuance dans le récit qu'on peut relever entre la version de la Gemara Ketubot et la version ici dans les Darim, c'est voulu. L'auteur de la Gemara tient compte d'un cadre prédéfini dans lequel s'inscrit cette histoire. Là-bas, dans Maseret Ketubot, c'est le sujet, comment certaines femmes vertueuses ont envoyé leur mari pour l'étude à la yeshiva des années, etc. Voilà. Et par rapport à cet aspect, ben, l'histoire s'inscrit et donc elle est présentée avec les éléments spécifiques à ce cadre-là. Chez nous, c'est un autre cadre et donc l'histoire est présentée avec les éléments spécifiques à notre cadre. Notre cadre, c'est comment Rabbi Yehuda l'a étudié dans la pauvreté. C'est ce qu'on disait. On ramène aussi Rabbi Akiva. Voilà. Maintenant, deuxième chose qui a rendu Achir Rabbi Akiva, Min Ila de Safinta. Aïl, c'est un bélier. Il faisait une sorte de bélier. Des Kol Safinta Avdinla Min Anna. Tous les bateaux à l'époque, je rappelle que le bateau, c'est les navires de commerce, qui est le symbole du business à l'époque. Et encore aujourd'hui, mais c'est ça. L'import, export, etc. Et donc tous les bateaux ont constitué une sorte de tronc en forme, le tronc pour mettre l'argent, en forme de bélier. Où on dit ici, min ana, d'après la version du Roche, une sorte de tson. Ça peut être un bélier, ça peut être un bouc, quelque chose comme la forme d'un animal, mais c'était creux. Zimna Khadan Shual Kefiyama. Une fois, ils ont oublié ça sur le bord de la mer. Ata ou Ashkeche. C'est lui qui est venu et qui l'a trouvé. Il y avait ici une Aveda, mais une Aveda qui était en soi une richesse parce que dedans, après une explication, on remplissait d'argent. C'était un symbole que comme le bélier se déplace avec aisance, d'ailleurs je crois que le mot Aïl a cette connotation, je crois avoir vu ça une fois dans l'étive, que ça a cette connotation qu'il se déplace beaucoup, il ne reste jamais en place, le bélier. Alors le bateau aussi, c'est un symbole qu'il puisse voguer paisiblement, etc. Donc il faisait ce symbole, mais il y avait donc un animal, la forme d'un animal, mais qu'on remplissait d'argent, ça faisait partie du symbole. Et ça, une fois, on a trouvé sur le rivage, qui l'a trouvé, Rabbi Akiva. Donc, troisième fortune, min gavza des im. Alors, à cause de gavza, grâce à gavza. C'est quoi gavza? On va dire, c'est le coffre du navire. On mettait dans un coffre toutes les richesses. Des im nakada, une fois, yai varba zuze lesfunai. Il a donné 4 dinarim aux gens du bateau, ceux qui, je ne sais pas, les marins, qui sont responsables d'un navire. Il leur a dit, Amarlewa itelimidaham, ramenez-moi quelque chose d'intéressant. Voilà, je vous donne l'argent. Le Hashkechou, ils n'ont rien trouvé. Et la Gavza al-Kefiyama, que ce coffre qui était sur le rivage. As-tu allé lui ont ramené? Amroulé l'ont dit, Yavid Marana Alei, que notre maître s'en serve, en profite. Ils lui ont fait donation. C'était une fortune, comme on va voir. Ils lui ont ramené ça parce qu'ils étaient un peu frustrés de ne pas lui avoir trouvé quelque chose à lui ramener du voyage. Alors ils ont trouvé ça, Vénès, ils lui ont ramené, ils lui ont attribué. Ishtakar dava male dinerede. Il s'est trouvé que c'était rempli de pièces en or, de dinarim. Les imnachada, hein. Parce qu'une fois à Tavat Sfinta, il y a un bateau qui a coulé. Vekule iska va machit beahu gavza. Et la recette de tout le business qu'on a fait avec ce navire était entreposée dans cette cassefette, on va dire, d'accord, ce petit coffre-fort. Veishtakar beahu zimna. Et ça a été retrouvé cette fois-ci, à cette occasion qu'on a raconté. C'est de ce coffre qu'on a parlé à l'instant. Là, on vient de donner l'origine d'où il a atterri au bord de la mer. Un coffre rempli d'argent, ben, c'était la recette d'un navire de commerce. Et tout, et finalement, c'est arrivé et ça a été ramené à Rabbi Akiva. Ici, est-ce qu'on lit les mots des Mindas Rukita? Il y a une version avec, il y a une version sans. Si on maintient ce terme, alors le Harouch et le Marsha nous disent que ça veut dire de Ishmaelim. Ça veut dire que c'était des commerçants ishmaélites, les gens du bateau. Bref. Quatrième origine de la richesse. Quelles étaient les sources d'enrichissement de Rabbi Akiva? C'est ce que nous sommes en train de développer. On est en train de les énumérer. On en a vu 3 sur 6, maintenant la quatrième. En 2 mots, min matronita. Matronita, c'est une femme chashuva, noble, de l'époque, à l'époque des Romains. C'est l'époque des Tanaïm. Et on ne nous en dit pas plus. Mais l'histoire est reprise ici dans les Rishonim, déjà le Ran. Alors je vais vous faire le récit rapide. C'était que Rabbi Akiva et ses Talmidim avaient besoin d'argent. Et il fallait emprunter de l'argent. Donc ils se sont adressés à cette Matronita, qui avait certainement des richesses. Et elle avait une grande émunat rachamim, comme on va le voir. Elle a dit à Rabbi Akiva, je veux bien vous prêter, te prêter, à condition que toi, tu es l'emprunteur, mais Akadosh Baruch Hu et la mère seront les garants. Que s'il y a un défaut de paiement, ben, Hachem et la mère sont conscients sur l'emprunt. Kaval Azman Lepiron, il lui a fixé une échéance, je m'engage. Je paye à telle échéance, ben, dans les conditions que tu as prédéfinies, ça veut dire avec, oui, sous-entendu, la garantie du ciel et de la mer. Et quand l'échéance arrive, voilà que Rabbi Akiva n'a pas pu honorer la dette parce qu'il était malade. Alors cette femme-là, elle est allée au bord de la mer et elle s'est adressée à Hachem. « Ribono shel olam, galoui viyadoua lefanecha que Rabbi Akiva est cholé et qu'il n'a pas la possibilité de me payer, il n'a pas les moyens immédiatement. » Mais tu t'es porté garant sur cette chose-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Miyad, aussitôt, la fille du César, à Rome certainement, elle est devenue folle. Elle a perdu la raison. Elle a pris un coffre qu'elle a rempli de pierres précieuses et d'or. Elle l'a jeté à la mer. Et c'est arrivé ici auprès de la Matronita, certainement en Terre Sainte. Puisque Rabbi Akiva était en Eretz Israël. Il y avait des romans en Eretz Israël à cette époque. Donc voilà. Et elle a récupéré. Et c'est comme ça que voilà. La suite de l'histoire, c'est qu'un jour, Rabbi Akiva, il vient après sa maladie. Voilà, j'ai guéri. J'ai l'argent, je m'excuse. J'arrive en retard, mais je viens rembourser. Elle lui dit, mais le garant s'en est occupé. Hachem a déjà remboursé. Et plus que remboursé. Et elle lui a restitué le trop perçu. Et c'est de ça qu'on dit ici que Rabbi Akiva s'est enrichi. Quatrième source d'enrichissement. Cinquième, Uminishto Shel Tournosropous. C'est une autre histoire cette fois-ci. C'est la femme de Tournosropous qui était un homme de premier rang à l'époque de Adarianus Kissar, le César Adarianus, à l'époque des Romains. Et sa femme, parce que ce monsieur-là, il était en tout premier rang dans l'entourage du César, et à chaque fois, c'était Rabbi Akiva qui avait le dernier mot. Il y avait comme des disputations entre lui et Rabbi Akiva sur toutes sortes de sujets, et à chaque fois, Rabbi Akiva avait le dernier mot. Il arrivait à le coincer, et lui, il en était malade, malheureux. Un jour, il rentre chez lui. Il a pas la face, il a perdu la face, il est démoralisé. Il raconte à sa femme, voilà, pourquoi il en est là. Et sa femme lui dit, tu sais que le dieu de ces juifs, il est Sonézima. Il ne peut pas supporter la corruption ou la perversion, etc. Permets-moi que j'aille le séduire. Elle est extrêmement belle. Et elle s'est dit, peut-être il va succomber à la tentation, lui, le grand maître des juifs. Et il va automatiquement perdre toute sa chachivoute. Il va être éclaboussé, embourbé dans un scandale pareil, etc. C'est le faire tomber de très haut. C'était le but. Il lui a accordé. Elle est allée. Et que... Donc bien sûr, elle s'est présentée de la manière la plus attrayante possible, etc. Et voilà que quand Rabbi Akiva l'a vu, Rak, Sachak ou Bacha. Il a eu trois réactions. D'une part, il a craché. Après, il a souri et après, il a pleuré. Alors, elle lui demande, c'est quoi ces agissements? Alors, il lui dit, deux, je peux te révéler. Le troisième, je ne te révélerai pas. Alors, pourquoi j'ai craché? Parce que tu viens d'une origine Tipa Serucha. Ça veut dire, tu as des ascendants, tu viens de famille Goy. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, au lieu de me laisser séduire, je sais... J'ai la force de ramener la chose à un niveau que ce n'est pas censé me tenter. Ça éveille sur moi peut-être du dégoût, C'est ça que j'ai voulu susciter. C'est peut-être l'intention. Il faut voir. Après, j'ai pleuré parce que cette beauté extrême que tu représentes, balé be'ara, va être balouille, c'est quelque chose qui se défait tout seul avec le temps. Ça veut dire, ça va être, tu vas être enseveli sous terre un jour, comme tous les humains. Et que voilà, il y a des valeurs dans ce monde qui sont éphémères, très beaux. Tu as une beauté unique et historique et emblématique qu'on trouve nulle part ailleurs possible. Mais qu'est-ce que ça vaut? C'est, voilà. Et la troisième, pourquoi j'ai ri, ça je te dirai pas. Et là, on dit dans l'histoire que il a ri parce qu'il savait que le roi HaKodesh, que finalement elle va se convertir et elle va se marier avec lui. C'est ce qui s'est passé finalement. Quand Tournosropous est mort, alors elle s'est convertie et elle s'est mariée avec lui. Maintenant, automatiquement, il s'est enrichi. Pourquoi il s'est enrichi? Parce que elle était riche par le fait de la fortune de son mari. Donc, c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Et la sixième source d'enrichissement, Umin Ketia Bar Shalom. Et là aussi, on ne nous en dit pas plus. C'est une histoire qui est reprise dans Masechet Avodah Zara. Qu'il y avait autour du roi, à Rome, le César à Rome, il voulait éradiquer certaines minorités de son royaume. Il en avait marre des juifs. Il a demandé à ses conseillers, qu'est-ce que vous pensez si on a dans le pied de la chair qui est morte, pas les petites peaux mortes qu'on entend aujourd'hui, non, de la chair qui a avec une maladie qui est devenue morte et qu'il faut amputer une partie du pied. Est-ce que ça vaut la peine ou on laisse comme ça et ça et on subit et on souffre et peut-être que ça aggrave. Sous-entendu, il y a des minorités dans notre royaume. Est-ce qu'il faut les éradiquer pour se porter mieux et qu'on puisse nous prospérer, nous les Romains? Ou peut-être qu'on va se les supporter et voilà, on va en souffrir de ces Juifs, sous-entendu, c'est ça les minorités. Alors les conseillers ont tout de suite compris l'allusion et joué le jeu. Mais vous avez raison, bien sûr, il faut éradiquer, il faut exterminer. Et il y a un certain Shalom, Katia Bar Shalom, qui a dit non, parce que c'est impossible d'en venir à bout. De les exterminer, ce ne sera jamais possible. Et en plus, tu vas avoir une mauvaise réputation, on va dire. Ça, c'est une malchut ketia. Ça veut dire que c'est un royaume de minables qui traite comme ça les minorités. Ce sera mal vu. N'essaye pas. Alors, il a dit, tu as raison. Au fond, tu as raison, mais il y a une loi que celui qui a le dernier mot sur le César, eh ben, il est condamné à mort. Donc, on allait l'exécuter. Et il y a une femme qui a une femme Khashuva de l'époque, ou encore une matronita, qui a dit, par allusion, elle lui a dit, comme c'est dommage de quitter ce monde sans avoir payé la taxe. Un bateau qui part au large et qui n'a pas payé sa taxe, que c'est dommage. Partir au large, ça veut dire partir pour le monde de l'au-delà. Tu quittes, de toutes les façons, tu es condamné à mort. Et tu t'es pas affranchi, ça veut dire que tu n'es pas encore circoncis, t'es pas converti ni rien. Quel dommage, c'est ton dernier instant. Il a compris et il a fait la mila. Et c'est comme ça qu'après il est niftar et on a annoncé dans le ciel qu'il est mezuman et chaya olam haba. Donc, il a eu le mérite de sauver les Bnei Israël. Donc, de là aussi est arrivée une fortune à Rabbi Akiva. Comment? J'ai oublié comment. Comment alors sa fortune a atterri chez Rabbi Akiva? Je ne me rappelle pas ce détail. Ok, il faut retrouver. Maintenant, la Gemara passe à autre chose. Rav Gamda Yaiv Arba Zuzel Lesfunae, il a donné lui aussi 4 dinars au marin. Leitruye Beon Midam, pour qu'il lui ramène quelque chose. Vous partez au large, ramenez-moi quelque chose, peut-être un souvenir, je ne sais quoi. Lo Ashkechu, ils n'ont rien trouvé. Atua Le Beon Kofa. Alors avec cet argent, tout ce qu'ils ont réussi à trouver, le lot de consolation, c'était un singe. Peut-être une espèce rare, je ne sais quoi. Ishtamit, il s'est échappé. Al lecharta, ce singe est allé se réfugier. Il est rentré dans un petit terreau, un trou, un un trou dans la terre, j'ai oublié comment on dit. Et Khaforu Batre, on a creusé après lui pour le retrouver. Ashkechua de Ravia al Margaliata. On l'a trouvé accroupi sur une pierre précieuse. Il y avait là-bas un trésor qui avait été perdu de longue date. Et grâce à lui, on a mis la main dessus. Aïtinoule Kulehon. Tous les marins qui ont fait cette découverte à l'unisson étaient prêts à le dédier au Rav. Ils sont venus ramener ça au Rav tous ensemble. Et donc, est-ce que ça lui revient de droit? Pas forcément. Mais eux lui l'ont dédié. Point. C'est encore une histoire où on voit comment Chacham, miraculeusement, s'est enrichi. Bien sûr, le Chacham, comme Rabbi Akiva, par exemple, ses sources d'enrichissement qui ont été racontées, quasiment, ça relève du miracle. Et pourquoi Hachem lui fait ça? Parce que, tout le temps, il s'est adonné à l'étude de la Torah en faisant tous les sacrifices. Il a renoncé à tout. Il a fait la plus grande abnégation par rapport, voilà, il a un beau-père riche, c'est pas grave, je me marie dans la pauvreté, je reste et je pars. Il aurait pu sauver sa situation, il était intelligent, c'était pas quelqu'un. Et voilà que, comme a dit la Mishnah dans Avot, celui qui est Mekayem et Torah, mais Oni, sauf les Kaïma, mais Osher, c'est peut-être ça que l'histoire reflète. La même chose avec Rav Gamda, Amra le Bat Kesar, le Rabbi Yoshua ben Hanania. La fille du César a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, Torah mefoara bikli mirkuar, une Torah si belle dans un récipient si vil et moche, ça veut dire que lui, il était rempli de Torah. Mais d'un autre côté, il avait un physique qui présentait pas du tout comme on aurait imaginé une grande personnalité. Non. Amarla, il lui a répondu, Limdi mi bet avir, ben prends le son de la maison royale. Ben me menichin yayin. Dans quoi on entretient, on conserve le vin? Amrale bemane depachra, dans des fûts en terre cuite. Amarla kul alma bepachra, veatun bemane depachra. Tout le monde fait comme ça, parce que sous-entendu, les gens ne sont pas riches. Mais vous aussi, la famille royale, ils conservent le vin dans du pachra. Des fûts en des cancanim en jerez, c'est pas digne. Atun achitun de mané des caspa vedava. Vous déposez le vin dans des fûts en argent, en or. Azlat, veramat ramra de mané des caspa vedava. Elle a fait mettre le vin royal, dans des fûts en argent et en or. Vesari, et ça a mal tourné. Amarla, aforaitaken. Rabbi Shoben Hananel a dit, c'est la même chose pour la Torah. La Torah, tu veux qu'elle se conserve et qu'elle réussisse? Ah, et c'est pas avec un beau look, un beau physique que tu vas réussir. Tu veux mieux réussir, c'est mieux d'être moins beau physiquement. Comme pour le vin, se conserve mieux. La Torah est comparée au vin, bref, mais en tout cas, comme pour le vin, t'as compris la leçon, ça se conserve mieux dans quelque chose de modeste. La même chose pour la Chokma de Torah. Alors la remarque Vaika Shapirin Vegmirin, mais pourtant il y a des gens qui sont beaux et qui ont appris et qui sont remplis de Torah. Amarla lui répond, Iavu Sanu, s'ils étaient Sanu, ça veut dire repoussant, on va dire, d'accord, s'ils n'avaient pas un beau physique, Avu Gmirin fait, ils auraient appris davantage. Comment on comprend davantage? Est-ce que c'est quantitativement? Moi je pense plutôt qualitativement. Il me semble que l'explication. Mais quelqu'un qui est un Talmid Chacham, il ne fait même pas attention à sa beauté. Alors quoi? Parce qu'il est beau, il va moins étudier. Tu crois qu'il va se laisser emporter par certaines tentations? Pas du tout. C'est un Talmid Chacham. Alors pourquoi tu dis qu'il va étudier moins? Il y a différents niveaux de Itya Chassout par rapport à la Chokhma. Il y a des fois un homme, il a un rapport avec la Chokhma au niveau intellectuel. Des fois, c'est avec le cœur très intime et très profond. Et il veut toucher à la neshama d'un chidouche, pas juste à l'apparence chitsoni d'un chidouche, le Torah. Et il veut fusionner et c'est intégrer la chose à un très haut niveau, de manière très profonde, etc. Tout comme ces deux types de yachas, on peut avoir vis-à-vis d'un Talmid Chacham. comment je m'identifie un Talmid Chacham par rapport à son look physique ou par rapport à sa sagesse, ses connaissances, tout ce qu'il incarne intérieurement. Tout comme je peux avoir deux rapports différents par rapport au Beit HaMikdash. Qu'est-ce qui me marque ? Le bel édifice, l'aspect superficiel ou bien la neshama de ce lieu, la force vive, la kdusha de l'endroit, etc. Il y a toujours différentes façons de s'identifier à quelque chose qui est sacré, que ce soit la Torah, que ce soit un Talmid Chacham, que ce soit Beit HaMikdash ou Beit HaKnesset, etc., etc. Il y a des gens qui sont axés sur ça, des gens plus sur ça, chacun. Ça. Maintenant, un Talmid Chacham, normalement, il est axé sur la pnimiyut des choses, du Beit HaMikdash, du Beit HaKnesset, de son rave. Il ne se laisse pas aveugler par les apparences. Son rave ne l'impressionne pas par son apparence, mais par sa sagesse. Et il s'attache à la subtilité de la connaissance, que, etc. Maintenant, ici, me semble que c'est ça. Quelqu'un qui a une apparence très modeste, il n'est pas du tout porté par ça, non, loin de là. Mais même quelqu'un qui est beau, s'il est Talmid Chacham, il n'est pas porté par ça. Néanmoins, tu ne peux pas faire abstraction de ta beauté au point d'être dans l'autre extrême. Un vrai Talmid Chacham, il est dans une extrême où il n'est sensible à la pnimiyut des choses. La chitsoniyut ne compte pas, ce qui fait qu'il arrive à toucher loin dans la pnimiyut des choses. Il y a dans une Gemara, c'est mentionné que quand quelqu'un il se rapproche d'un Talmid Chacham, il s'habitue à lui, il converse avec lui, et il échange, etc. Et au fur et à mesure, le Chacham il perd de valeur. Et Rav Yosef Yavetz HaChassid il dit pourquoi ? C'est ce phénomène, parce que le Hamaaret, quel est son rapport au Chacham ? Il voit l'apparence, il perçoit l'individu, oui, sa prestance, sa façon de parler, hein, c'est tout. Mais la sagesse et la pnimiyut du Chacham, il ne sait pas la percevoir et l'apprécier. Alors qu'un Talmid fidèle, il ne jure que par son maître, peu importe les apparences, comme on va avoir une histoire bientôt. C'est la pnimiyut qui lui compte et qui, sa sagesse et sa finesse, hein. Alors il reste toujours encore plus ébahi de la grandeur de son maître. Il n'y a pas de ternissement et comme s'il perd de valeur à ses yeux, au contraire. La même chose pour tout ce qui est sacré, j'ai dit le Beit HaMikdash, Beit HaKnesset, etc., etc. C'est un enseignement chachouf dans la vie. Et là, c'est ce que je ressens ici. Qu'il voulait répondre. Quelqu'un, il peut être très grand Talmid Chacham, mais s'il est beau, cette réalité du physique ne veut pas lui échapper, au point que ça peut un peu altérer sa perception purement spirituelle des choses. D'accord ? Il y a une il est un peu amoindri de cette, dans cette approche qui est voulue par un Talmid Chacham de ne chercher que la pnimiyut des choses. C'est, me semble, l'explication pourquoi il dit qu'on étudiera mieux si on n'avait pas un beau physique. On va continuer. Haïdéatia le kamele Rav Yehuda Minardea. Ou l'Inardea plutôt. Il y a une femme qui est venue au Bedin de Rav Yehuda, à la ville de Nardea, l'Edina, à la justice. Vitraivat Mindina. Et elle a été. Elle est pas, ça s'est mal passé pour elle. C'est elle qui est devenue Chayevet. Amrale Shmuel Rabba Chachidanan. Alors elle a dit à Rav Yehuda, est-ce que ton maître Shmuel il m'aurait jugé ainsi ? Amarla Yadatle, quoi, tu le connais ? Amrale In, bien sûr. Gutsa Verabba Krisé, Ukam Verabba Chiné. Elle a décrit en quatre termes non élogieux. Elle a dit, il est court. Rabba Krisé, il a un gros ventre. Ukam, il est d'un teint sombre. Il n'est pas clair de peau. Verabba Chiné, il a les grandes dents. Tout ça, ce n'est pas très élogieux comme descriptif. Bon, elle a voulu dire, bon, mais je le connais, voilà, je peux te le décrire. Mais ce n'est pas une manière de décrire un Talmid Chacham, un Kadosh comme Shmuel, le Rav de Rav Yehuda. Amar, là, il lui a dit, les vazouillés, katit. Là, tu t'emploies à le mépriser avec ce descriptif. Tivei teta beshamta. Il l'a décrété benidouille. Paka umeta. C'est comme ça que elle est morte, finalement. Ça veut dire que normalement, le nidouille, tu viens demander pardon, tu fais tchouva, on lève le nidouille et normalement ça se passe bien. Mais si la personne ne s'est pas inclinée, n'a pas reconnu son manquement, sa faute, son manque de kavod pour un Talmid Chacham, n'a pas demandé pardon il reste avec son idouille. Ça peut se terminer par mita. D'ailleurs, la Gemara dit que shamta, c'est la contraction de sham mita. Donc, c'est ce qui est advenu. Donc, ça va avec l'histoire précédente. Rabbi Ben Hanania, on a dit qu'il n'avait pas un beau physique. Shmuel, pas plus. Mais ils sont devenus encore plus. Ensuite, Moutar, Bebetsa, Trumita. Nous revenons maintenant, après toutes ces belles histoires, à la Mishnah, qu'on disait celui qui a fait un vœu de ne pas manger un tafshir, néanmoins, il peut manger Betsa, Trumita. C'est un œuf traité d'une manière particulière. Mais un œuf, ça se mange avec du pain, donc c'est inclus dans tafshir. Mais l'œuf qui est préparé d'une manière particulière, qu'on appelle Betsa, Trumita, lui ne se mange pas avec du pain. Donc ça ne s'appelle pas tafshir, parce que comme Abaye nous avait éclairé sur le sujet, à l'époque du Tana, tafshil, ça renvoie uniquement à un mets cuisiné qui accompagne le pain. Si c'est un mets, que voilà, c'est un plat de consistance qui se mange sans pain, c'était pas ça un tafshil. Bien. Alors maintenant, hein, l'Agmara va rentrer plus en détail. C'est quoi ce genre d'œuf? Maï betza trumita, marshmuel, avda de avidla, chave alpha dinre. Le hevet qui sait le constituer, le préparer, et c'est un hevet qui vaut 1000 dinars. Ça veut dire que c'est un spécialiste. Il y a tout un savoir-faire derrière ce genre d'œuf. Shmuel était rofé, d'accord ? Il était médecin en même temps, enfin, parmi toutes ses connaissances, il connaissait la médecine. Donc il dit qu'un Eved qui sait préparer cet œuf, il a une grande valeur. Ou Me'ayilela alpha zimne. Pourquoi ? De Me'ayilela alpha zimne bemaya chamime. Il fait rentrer l'œuf 1000 fois dans de l'eau bouillante. Ve'alpha zimne bemaya kerire, 1000 fois dans de l'eau froide. Et certainement, c'est le phénomène de la trempe. Que tu chauffes, et après directement dans de l'eau froide. Ade mitzoutra, ki echede balita. Jusqu'à que l'œuf se rétrécit, devient compact, au point que balita, tu l'avales tout rond. Il passe. Un œuf, ça passe pas dans la gorge d'un homme. Ouais, tout rond, ça passe pas. Mais tellement à force de le cuire et le refroidir, alors on a réussi à le... Il se crispe sur lui-même, mitzoutra, c'est ça, zoutra petit, et après, balita, tu arrives à l'avaler. À quoi ça sert de faire ça? On va voir tout de suite. Mais il y avait tout un savoir-faire. Là, on nous donne le principe. Mais si c'était facile à faire et que chacun de nous savait le faire, alors on n'aurait pas dit un évêque qui sait le faire, il vaut 1000 dinars. Il y a derrière ça tout un savoir-faire, toute une méthode. Maintenant, à quoi ça sert? Ça sert pour le médecin. Qu'est-ce qu'on raconte justement? Ve'imit qui va à Sarichala. Si quelqu'un, hein, il a une maladie des intestins, quand l'œuf y passe, c'est comme les petites sondes d'aujourd'hui avec des caméras miniaturisées, eh bien, ça fait le même effet. Parce que Sarichala, ça va s'attraper à l'œuf ou une coloration ou une glaire ou des choses comme ça qu'on va prélever. Vekad nafka, et quand l'œuf ressort, veatia, et on le récupère, yada asya maïsama mitbaele. Le médecin, il saura quelle médication lui prescrire, ou ve maïmitase, avec quoi il va guérir. Donc, ça, c'était ce qu'on appelait dans la Mishnah Betsa Trumita, mais en bref, en ce qui nous concerne, c'est que c'est quelque chose qui est, oui, tafshil, non. Il est cuisiné, mais il ne s'appelle pas tafshil. Ça ne se mange pas avec le pain. Il doit être d'ailleurs très compact, très dur. Et le but, c'est de l'avaler tout rond. Donc, ça ne se mange pas avec du pain. Shmuel ava badik nafshe bekulcha. Shmuel faisait la même chose, mais avec kulcha, c'est la partie, peut-être la tige du chou, comme ça c'est précisé. C'est quelque chose, un petit morceau certainement, qui est dur, compact, et qui peut passer tout rond dans la gorge, qu'il avalait, pour faire ce même genre de test, et savoir après quelle médication il avait besoin. Mais c'était tellement une souffrance que ça pouvait inquiéter l'entourage. Il pouvait des fois presque s'évanouir de cette souffrance. « Ademis satrin in shebete ale sareon » jusqu'à que les femmes de la famille, c'est-à-dire sa femme ou ses filles, défaisaient les nattes de cheveux. La femme à l'époque avait les cheveux sous forme de nattes, et ça, c'est de torsade, elle défaisait en signe de deuil presque tellement elle s'inquiétait pour lui. D'accord ? Ensuite, mais il faut croire qu'il était tellement expert, puisqu'on dit ailleurs qu'il connaissait la refoua, Donc, il savait les limites de chaque chose. Certainement, il savait qu'il ne prenait pas de risques. Sinon, je ne crois pas qu'il l'aurait fait. Nanatam. Là-bas, dans une Mishnah, c'est enseigné. Hayaose baklufsin lo yochal bibnot sheva. Bibnot sheva lo yochal beklufsin. Ce sont deux variétés de figues, connues à l'époque sous ces deux noms différents. Et si quelqu'un, c'est un poel qui travaille pour vendanger, par exemple, tu peux l'interdire de prendre des raisins? La Torah dit non, tu le laisses. Il doit pouvoir prendre et manger sur place, pas pour ramener à la maison, mais pour manger. Et la même chose si c'est des figues. Mais maintenant, s'il y a deux sortes de figues, lui, il travaille pour la cueillette de ses figues. Et il va manger les autres qui sont en face. Si c'est deux variétés, il n'a pas le droit. Si c'est la même variété, oui. Si c'est deux variétés différentes, non. Maintenant, la Gemara demande « My klufsin ». C'est quoi cette sorte qu'on appelle les klufsin ?« Mina de teine de avdin minohon lafde ». C'est une sorte de figue avec laquelle on prépare lafde. Ce sont des plats, une sorte de préparation alimentaire à base de figues. Ouais, ou peut-être il n'y a que des figues, mais c'est une façon spécifique de les préparer. Il y a un homme qui a confié son Eved à un chef pour qu'il lui apprenne 1000 façons de préparer les lafdés. Non, mais 1000, littéralement. Il y avait 1000 façons bien connues des grands, grands spécialistes. Et donc, il voulait former son Eved chez ce spécialiste, Agmeret Tamnemea. Il ne lui a appris que 800 méthodes, 800 façons de préparer les lafda. Azmene le dina le kame de Rabbi. Il a convoqué à la justice auprès de Rabbeinu Akadosh. J'ai payé un forfait d'apprentissage pour que mon évêque sache faire les 1000. Il ne connaît que 800 et il a failli à son engagement. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que Rabbi a tranché sur le sujet, mais la Gemara raconte que Rabbi a réagi. Amarabi, avotenu amru, nos ancêtres ont dit nashinu tova. On a perdu de vue tout ce qui pouvait être le tov dans Olamazé avec le galout Khurban. Anu afilu benenu lurainu. Nous, même de nos yeux, on n'a jamais vu, on n'a jamais aperçu, on n'a jamais connu tout ça. 1000 façons, on est quoi, capable d'avoir tout ce. Cette recherche et cet intérêt pour encore un petit luxe comme ceci, un autre comme cela, 1000 façons de préparer ça là. Voilà. Maintenant, peu importe, qu'est-ce que Rabbi a tranché sur ça? Rabbi Avadle Iloula les Rabbi Shimon Barabi. Rabbi, il organisait le mariage de son fils Rabbi Shimon, Katav al Bet Galana, pour le Bet Khatnout. Ça peut, d'après certains méfarshim, comprendre aussi la maison dans laquelle il y aura. La simcha de Khatan Kala, mais que c'est leur maison où ils vont habiter aussi. Esrin verba alfin riboin dinarin. 24 000 myriades de dinarim. C'est une somme colossale que j'aurais du mal à chiffrer. Et c'est tellement invraisemblable que certains disent que c'est Guzma. Et pourquoi on a donné ces chiffres? Il y a des remazim. Comme ça, c'est la démarche du Ben Ishraï. Il y a des remazines dans ce genre de chiffres, il y a des allusions, des nianimes élevés, mais réellement, ce n'était pas cette somme-là. On sait que Rabbi était très riche, ce n'est pas la question, mais où est le bon sens? On voit dans d'autres gemarot que Rabbi utilisait son argent pour soutenir les chachamim de l'époque, etc. Mais ça, c'est du... Comment c'est possible? Juste faire un beau mariage, c'est invraisemblable. Et d'accord, tu as mis dans le lot aussi la maison, ils vont, le jeune couple va résider, etc. Et d'accord, et alors? C'est invraisemblable. Mais certains disent que Rabbi avait des obligations. Il était le Nassi. Donc, il avait des obligations envers les autorités locales. Et les autorités locales sont les Romains. Et les Romains, donc, tu dois inviter tel noble et tel influent et tel... Et puis après, c'est pas que de ce royaume, c'est d'autres royaumes, etc. Il y a des accords et tout ça. Et donc, c'est ce qui fait que il devait forcément... faire quelque chose d'exceptionnel par rapport à tous ceux qui se sentaient le devoir. Maintenant, au passage, on nous raconte que Loaz menait les Bar Kappara. Bar Kappara, c'était un talmide de premier rang autour de Rabbi. Il n'a pas été invité. La raison, nous dit Rashi, parce que Rabbi craignait que, par sa nature, qu'il était très enclin à réjouir. Il pouvait dire quelque chose qui fait rire, et Rabbi se serait réjoui. Alors Rabbi ne voulait pas risquer, même pas au mariage de son fils, ne voulait pas risquer ça, qu'on n'a pas invité Bar Kappara à cause de ça. savait tellement bien s'y prendre pour détendre l'atmosphère, pour faire rire, etc. Rabbi voulait pas, il voulait pas, même pas un mariage de son fils. Et donc il l'a pas invité. Et on va voir comment il va réagir. Bar Kappara, il n'a pas reçu l'invitation. Alors il a dit, Amale, im le ovre retzono kach, lo se retzono lachat kama ve kama. Si déjà pour des goyim, ovre retzon Hashem. Donc des goyim, tu fais tellement d'honneur. Il y a parmi les convives des personnalités goy, ça reste des goyim, qui font pas retzon Hashem. Moi qui ai osé retzono shel makom, lachat kama ve kama, combien plus forte raison, faut aussi m'inclure parmi les convives. Je crois que c'est ça l'explication. Après, j'ai vu qu'il y en a qui ont ramené là-bas une explication comme ça. Azmene. Alors, Rabbi, ça l'a convaincu, il l'a invité. Amar. Alors, après ça, il a dit, « Léo seretono baolamaze kar. Lamaba lachat kama vekama. » Bar Kappara, il a commenté, il a dit, « Si déjà, pour ceux qui font le raton Hashem, dans ce olamaze qui est très accessoire, et c'est pas ça qui compte pour eux, pour ces oseretono, pour ces tzadikim, Hashem leur donne une telle richesse dans ce monde-ci, alors que c'est pas ça qui compte pour lui. Le Icar pour Rabbi, c'est pas la richesse de ce monde-ci. Alors qu'est-ce que ça réserve dans l'autre monde? Là où c'est vraiment le monde de la récompense, là où ça compte vraiment pour un tzaddik, qu'est-ce que ça réserve? Ça, c'était la remarque qu'il a fait après. Yoma de Mechayer be Rabbi. On va s'arrêter ici. Et après, c'est encore des histoires avec Bar Kappara et Rabbi par rapport à cet aspect que Rabbi ne devait pas s'autoriser de la réjouissance ou de rire parce que, comme on va voir, et c'est pourquoi il évitait des fois les occasions où Bar Kappara pouvait en venir, le pousser à ça.